religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette rediffusion, nous nous intéressons à l'écologie sous l'angle du spirituel. Le temps est compté, c'est ce que déclarait le pape François à la veille de la COP26 en Écosse, appelant les responsables politiques à s'engager pour préserver la maison commune. La maison commune qu'est notre planète, c'est un des mots-clés de l'encyclique du pape François Laudato Si, Loué sois-tu Seigneur, publié en 2015, dont l'impact a largement dépassé la sphère chrétienne. S'inscrivant dans les grandes encycliques sociales de l'Église catholique, on pense à Rerum Novarum sur la condition ouvrière en 1891, à Populorum Progressio en 1967 sur le développement des pays du Sud, ou à Centesimus Annus en 1991 sur le néolibéralisme, Laudato Si a développé une réflexion globale montrant qu'il n'y avait pas deux crises séparées, une environnementale et l'autre sociale, mais une seule crise, une crise socio-environnementale. En somme, tout est lié, c'est le principe de l'écologie intégrale, le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement, les risques d'aggravation de la pauvreté au Sud découlent bien de l'économie de marché sans limite, de nos modes de production, de consommation et de notre regard sur le progrès. L'implication de l'Église dans la transition écologique et dans la théologie verte est le fil conducteur de cette émission. On le voit, si le pape François a fait de l'écologie un des sujets centraux de son pontificat, l'Église n'a pas toujours été moteur dans le domaine de la conscience écologique, loin de là, et il lui fut reproché son anthropocentrisme, hérité d'une lecture littérale de l'injonction biblique « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre ». La conversion du regard a pris du temps et il lui a fallu opérer un véritable aggiornamento. C'est ce que nous dira le sociologue des religions Christophe Monod, co-auteur avec le philosophe Frédéric Rognon du livre « Église et écologie, une révolution à reculons » publié chez Labor et Fides. Mais avant de l'entendre, nous ouvrons avec la réflexion philosophique sur l'écologie d'Isabelle Priollet. L'enjeu de la crise écologique est plus vaste que la seule préservation de l'environnement. Il est ontologique. Il est une façon d'être au monde et de l'habiter. C'est le message du livre d'Isabelle Priollet, « Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique pour une écologie de la résonance », un livre publié chez Labor et Fides. Isabelle Priollet, bonjour.
Bonjour.
Pas moins de 600 pages pour ce livre, avec quand même ce titre, j'allais pas dire abstrait, mais enfin quand même un petit peu difficile véritablement à comprendre. J'avoue que j'ai un petit peu hésité et puis je me suis lancée dans la lecture de votre livre qui en fait est la publication de votre thèse de doctorat.
Oui, tout à fait, d'où la taille.
D'où la taille. Et finalement, je n'ai pas été déçue et je crois avoir compris quelques messages, dont celui que je viens de donner. Alors, quelques mots sur vous. Vous parlez d'une conversion écologique. Vous, c'est une véritable conversion professionnelle, j'allais dire, que vous avez réalisée. Vous êtes docteur en philosophie, mais avant, vous êtes diplômé de l'ESCP, donc l'École supérieure de commerce de Paris. Vous avez été dans la finance solidaire, également dans le monde de l'entreprise, à travers la responsabilité sociale et économique, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, dans la finance éthique, plus exactement, hein, l'investissement socialement responsable et la RSE, tout à fait en entreprise, plutôt auprès de petites entreprises cotées en bourse pour leur... fournir des conseils en stratégie de développement durable.
Alors, qu'est-ce qui explique ce cheminement ? Vous allez quitter le monde de l'entreprise pour finalement faire des études de philosophie. Vous êtes docteur en philosophie. Et puis ensuite, être étudiante, j'allais dire, à l'Institut de sciences et de théologie des religions, l'ISTR. Alors, qu'est-ce qui explique cette conversion ?
Je crois que... J'ai navigué donc dans l'univers de la RSE, j'en ai pris le meilleur. On rencontre des gens admirables, animés de vraies intentions, de changer les choses. La même chose dans la finance éthique. Mais si on s'interroge sur le fond de la question, combien ça repèse dans la finance totale ? Dans le meilleur des cas, 1,5%.
Ouais, c'est pas grand-chose.
À 40 ans, comme beaucoup de personnes, j'étais animée par la volonté de contribuer à faire changer les choses. Et ma façon à moi d'y répondre, ça a été de reprendre des études pour avoir les ressources de faire changer les choses en profondeur. Et pour ce qui me concerne, ça veut dire travailler sur les valeurs, travailler sur la dimension spirituelle et philosophique. Donc d'abord, un cursus à l'ISTR, à la Cato, en sciences des religions, sur la question de l'homme et la nature. Donc, j'ai pas non plus fait un virage par rapport au passé, c'est-à-dire que j'ai exploré cette question du développement durable, mais sous un angle spirituel, alors que au préalable, c'était sous un angle professionnel.
Une crise écologique ne peut pas être résolue, appréhendée, si on ne va pas au fond des choses, c'est-à-dire si l'homme ne change pas son regard, son rapport à la nature, s'il n'habite pas le monde.
Tout à fait, c'est ça. Enfin, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. La dimension politique, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises sont des choses bien sûr nécessaires. Mais je pense que en parallèle, il n'y aura pas de changement massif, c'est-à-dire massif au sens où ça concerne chacun d'entre nous. Ainsi, au changement de paradigme économique auquel nous appellent les économistes, ne s'ajoute pas une transformation profonde de la conception du soi. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui constitue le soi ? Qu'est-ce qui me constitue ? Et en quoi notre relation à l'environnement serait impliquée dans ce qui me constitue ? C'est toute la réflexion de l'écologie profonde.
La deep écologie.
Voilà,
ça.
La deep écologie.
Lancé par combien de personnes, en fait ? C'est très peu de personnes qui ont lancé cette conception.
Alors, la deep ecology, parfois, ça fait un peu fuir, parce qu'il y a eu, bien sûr, des dérives, comme dans tout courant.
Oui, il peut y avoir une... Pour certains, il y avait cette crainte, effectivement, d'une sorte de dictature.
Tout à fait.
Dictature du verre, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, on est sur la même longueur d'onde. C'est pour prévenir nos auditeurs qu'il y a eu beaucoup de mauvaises lectures. Alors, pour répondre à votre question, le fondateur de la deep ecology, c'est un certain Arne Næss.
Un Norvégien ?
Un Norvégien, dans les années 70. Personnage très sympathique parce qu'il incarnait ce qu'il prônait philosophiquement. Il a vécu une grande partie de sa vie dans une petite cabane qu'il a lui-même construite en bois dans les montagnes du Tvergastein.
Donc en pleine Norvège.
Voilà, au cœur de la Norvège. On imagine bien le décor. Et donc, c'est lui le véritable fondateur de l'écologie profonde. Le problème, c'est qu'il a été un peu traduit, mais très mal interprété. Et donc, ce que je me suis efforcée de faire dans ma thèse, c'est de faire droit à la profondeur de sa pensée. Et écologie profonde, c'est tout simple. Il l'oppose à une écologie superficielle, qui serait se contenter, un peu comme une roue, coller des rustines sur la roue qui est crevée, sans analyser le problème en profondeur. Pourquoi écologie profonde ou deep ecology ? C'est qu'on va s'intéresser aux racines profondes de la crise écologique. Et c'est dans ce contexte que sont appelées les philosophies et toutes les grandes sagesses du monde entier. La deep écologie, c'est pas une dictature écologique. Au contraire, c'est une plateforme de discussion entre toutes les grandes traditions. Et il l'écrit dans ses ouvrages, toutes les traditions de sagesse.
Une conversion écologique, c'est non seulement effectivement consommer de façon différente, c'est se déplacer de façon différente, c'est même se distraire de façon différente, etc., etc. Bien. Mais pour vous, ça n'est pas suffisant. Il faut un autre regard sur le monde. Expliquez-nous, Isabelle Priollet.
Mais une conversion écologique, c'est d'abord une conversion du soi. C'est pour ça que ça va en profondeur. Pour changer de regard, il faut changer aussi de regard sur soi-même. Il y a un moine bouddhiste vietnamien qui dit une chose très belle, c'est Thich Nhat Hanh. Il est assez connu, vous trouverez des bouquins à la FNAC sans problème. Avant de vouloir sauver la planète, il faut guérir le soi.
Et le soi est malade ?
Il me semble que les raisons qui mènent à la crise écologique aujourd'hui sont les mêmes que celles que signalaient les Grecs à leur époque. La démesure du désir humain, on peut penser à Prométhée, l'incapacité de l'homme à se satisfaire de ce qu'il possède, à jouir de la vie, de l'instant présent. Je crois que c'est des choses qui sont vieilles comme l'histoire de l'humanité et qu'il faut qu'aujourd'hui on se réapproprie pour aller à l'origine du problème.
La démesure, vous la voyez où, par exemple? C'est dans ces, est-ce que ce sont ces gratte-ciel, par exemple en Chine, ou bien dans la péninsule arabique? Où est-ce que vous les voyez, cette démesure? Quels sont les signes de cette démesure?
Je crois qu'elle est la démesure, elle est encore plus intrinsèque que ça. C'est ce que explique bien le pape François dans son encyclique.
C'est Laudato si, oui, en 2015.
Laudato si sur l'écologie. La démesure, en fait, c'est cette croyance, parce qu'on peut appeler ça une croyance, que l'homme, par la technologie, pourra résoudre tous ces problèmes, et en filigrane, et c'est là qu'on touche à l'ontologie, il y a quelque part cette idée que l'homme peut être un dieu.
On va dans le mur ? Isabelle Priollet ?
Je ne pense pas, parce que moi j'enseigne beaucoup dans les universités, dans des écoles de commerce, d'ingénieurs. Je pense que le terreau est prêt pour comprendre que on s'en sortira pas si ça passe pas par un profond changement à l'intérieur de nous-mêmes.
C'est une question spirituelle que vous soulevez, là, Isabelle Priollet.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, qui peut expliquer précisément, est-ce que ça n'est pas aussi, j'allais dire, le recul de la pratique religieuse, ou en tous les cas, une certaine absence de spiritualité, semble-t-il, parce que là encore, ça serait à redéfinir, qui peut expliquer précisément cette course en avant à la consommation? Quand il n'y a pas de spiritualité, on consomme, parce que l'être humain, bon, sait que son temps sur Terre est assez limité, et du coup, ça peut pousser à une frénésie de la consommation.
Oui, je crois que, encore une fois, le pape François l'explique très bien dans son encyclique, c'est qu'on est pris dans un paradigme dominant, celui de la technique, qui nous pousse sans cesse dans notre vie à maximiser l'efficacité, la performance quantitative, et donc la consommation à laquelle vous faites allusion en fait partie. Et je crois que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cette instrumentalisation de nos vies par la technique, et le dialogue avec les autres traditions peut avoir un effet de révélateur. Moi, quand j'ai commencé ces études à l'ISTR, on me disait « mais tu vas perdre ta foi ». En fait, je crois que aller au contact des autres traditions de sagesse, c'est mieux comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Et de la même manière, par rapport à la question de la technique, aller par exemple vers les traditions animistes, qu'elles soient amérindiennes ou même les pays d'Afrique qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur ce point de vue. Le chamanisme, ça peut nous faire comprendre combien notre rapport aux non-humains, alors bon, par là j'entends les animaux notamment, mais aussi les plantes et les créatures inanimées, est biaisé. Cette espèce de dualité qu'on établit entre l'homme et les êtres vivants, c'est quelque chose qu'on ne va pas du tout retrouver, par exemple, chez les Amérindiens. Dans la vision, alors c'est Descola qui le raconte très bien, Philippe Descola, un anthropologue, dans la vision occidentale, ce qui distingue les individus entre eux, c'est leur conscience, il parle d'intériorité, le sujet. Et bien dans la vision animiste, ce qui distingue les êtres, c'est simplement leur corps, le corps étant vu comme une simple enveloppe physique, une simple enveloppe. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière l'enveloppe ? Une réalité la même pour tous. Tout le monde est doté d'une âme, tout le monde est doté d'un esprit. Et le chaman, et puis l'homme ou la femme spirituelle, c'est celui qui sait voir au-delà des apparences. Alors, vous parliez de transformation du regard. C'est vrai que ce type de philosophie nous amène à regarder autour de nous de façon complètement différente.
Écoutez Religion du Monde, notre invitée est Isabelle Priollet pour son livre « Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique » et c'est publié chez Labor et Fides. Est-ce que là, vous êtes en train de signifier, Isabelle Priollet, qu'il faut que nous allions vers la décroissance, qui est quand même une vraie question, qui est tout à fait débattue, il y a les pour, il y a les contre, non seulement la décroissance économique, mais aussi la question démographique. Nous sommes très nombreux sur Terre. Or, les religions, enfin, en tous les cas, c'est le grand grief qui est fait, par exemple, au christianisme, le fameux « croissez et multipliez ». Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps, effectivement, de baisser la voilure?
Alors, je serais très épicurienne sur ce point de vue de la décroissance. Vous savez que Épicure, l'épicurisme en général, c'est une pensée qui est reconnue comme étant à l'origine quelque part de la sobriété.
La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, voilà. Aujourd'hui.
On peut faire écho entre Épicure et la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ce que nous apprend Épicure, c'est pas tant à consommer moins, c'est à nous satisfaire de ce que nous avons, quel que soit notre statut.
Ça revient au même.
Si nous sommes dans l'opulence, arriver à finalement nous en détacher et à imaginer pouvoir vivre sans cette richesse. Ne pas s'attacher. Si les choses nous échouent, c'est exactement ce que dit Épicure, eh bien, nous les prenons. Mais sans cet attachement, sans cette concupiscence. Donc il n'y a pas besoin d'être dans le dénuement pour pratiquer la sobriété. On peut pratiquer la sobriété au cœur de l'abondance, par un profond détachement. Moi, je viens d'un milieu ouvrier et j'ai eu la chance par mes études, vous parliez de Subdoco Paris, d'avoir une carrière, un mari, une famille et de vivre dans une certaine opulence. Aujourd'hui, ma grande ambition spirituelle, c'est de pouvoir revenir à la case départ avec une certaine joie. La joie qu'éprouve Épicure quand il nous parle des plaisirs en repos. Pour Épicure, le plaisir, c'est pas consommer davantage, comme vous l'expliquiez très bien. C'est le plaisir d'avoir, quand on vient de manger, c'est pas le plaisir de manger toujours plus, c'est cette espèce de plénitude qu'on ressent dans le fait d'avoir fait un bon repas partagé avec des amis. Plénitude qu'on ressent dans le fait d'avoir bu un bon verre avec des amis de la même manière. Vous voyez, c'est l'après, en fait, c'est pas le pendant. C'est pas la quantité, c'est la qualité.
Oui, alors là, évidemment, c'est une parole occidentale. On pense à ceux qui...
C'est vrai.
Il y a le Sud où c'est pas ça ne se pose pas comme ça.
C'est vrai, mais au Sud, je pense encore à nos amis africains, le fait de partager un repas, c'est aussi faire honneur aux ancêtres. C'est pas la question d'avoir plus, c'est la question de partager le peu qu'il y a. Et je pense que pratiquer ces libations, ces offrandes aux ancêtres, ça apporte un supplément qualitatif à ce repas, qu'il soit fastueux ou... Ce repas a du sens, tout simplement.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la décroissance concernant la démographie.
Alors,
c'est qu'une vraie question.
Oui, c'est une vraie question. Alors, disons, ayant une certaine affinité avec l'écologie profonde, je pense qu'on ne peut pas obérer l'impact environnemental des hommes sur les écosystèmes. Et je pense que l'Église va, à un moment ou un autre, devoir prendre position sur cette question, comme elle l'a très bien fait sur la question écologique. Je crois que c'est une question de temps, une étape. Mais le pape François a dit une chose quand même fort juste, c'est que les modèles que nous développons, les modèles occidentaux ont une responsabilité vis-à-vis des puissances en développement. Si nous changeons notre modèle, si nous passons à un modèle de sobriété, mais il y a toutes les chances que ça ait un effet vertueux. Parce que j'espère qu'un jour, la consommation ostentatoire deviendra quelque chose de ringard et plus un signe statutaire. Comme
oui.
Ça l'est aujourd'hui.
Alors, ringard, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le même temps, on voit des pays, alors non pas émergents, mais des pays qui sont encore communistes, on pense à la Chine,
ouais.
Où c'est du capitalisme rouge, c'est au contraire, c'est un succès de pouvoir consommer énormément, de le montrer beaucoup. On le voit bien à travers la façon de consommer des Chinois qui ont accédé à de grosses fortunes.
Tout à fait.
Et les Russes, c'est un peu aussi, d'ailleurs.
C'est un peu un déni de leur propre culture. Moi, je pratique le Tao régulièrement, dans le sens où je pratique une technique qui s'appelle le Qigong. Alors, vous parlez de transformation du regard. Là, on passe par le corps, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça me semble important. Dans ces traditions, et ce n'est pas la seule, la diète est recommandée comme un facteur de santé. Donc, en fait, on tourne le dos à des sagesses millénaires qui sont mobilisables. Peut-être qu'il y aura un retour de bâton un jour.
Enfin, en tout cas, l'industrie du luxe fonctionne avec ces pays-là, avec cette clientèle-là.
Certes, mais peut-être que si les pays occidentaux font de la consommation carnée un acte qualitatif, c'est-à-dire si on va vers une consommation moins fréquente mais plus qualitative, il y aura un effet, parce qu'on est d'accord que c'est des effets d'imitation. Il y a une transposition du modèle occidental qui est faite dans ces pays. Si nous-mêmes faisons évoluer notre modèle, d'où l'importance de prendre les choses à la racine, encore une fois, eh ben, il y a des chances pour que, je ne dis pas aujourd'hui, mais à moyen terme, ça ne devienne pas forcément statutaire de manger de la viande tous les jours, mais plutôt un peu retardataire.
Vous évoquiez le corps il y a quelques instants. Que voulez-vous dire à ce sujet ?
Je crois que c'est un aspect très important. Moi, je le pratique dans mes cours. Je fais des cours sur l'homme et la nature dans les grandes traditions spirituelles du monde entier. Et aux aspects théoriques, j'aime adjoindre des moments de reliance. Ça peut être de la méditation, vous voyez, toutes ces techniques qui engagent le corps, parce que ça me paraît essentiel. Pourquoi aujourd'hui on vient chercher les grandes spiritualités au chevet de l'écologie ? Des courants tels que la collapsologie, si je peux employer un terme barbare.
C'est-à-dire, en fait, cette vision de la fin du monde.
Oui, toutes ces théories de l'effondrement.
Voilà.
Au départ, qui étaient assez scientifiques, en fait, produisant des statistiques sur l'imminence de cet effondrement. Aujourd'hui, je pense à un certain Pablo Servigné, par exemple, font appel aux spiritualités, reconnaissent l'importance des spiritualités pour amener quelque chose d'essentiel, à mon sens, pour la conversion écologique, qui est l'empathie. Transformer son regard, c'est transformer son cœur. Donc, qu'est-ce que amènent les grandes traditions spirituelles dans le débat écologique aujourd'hui ? C'est dépasser une vision purement intellectuelle de la conversion écologique, qui était celle des Grecs, finalement. On peut penser aux stoïciens, la maîtrise de soi. C'était, à l'époque, extrêmement plein de ressources, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose que va apporter le christianisme, qui est l'idée d'une conversion des cœurs. Qu'il ne suffit pas d'exercer sa volonté, mais que, quelque part, nous pouvons recevoir quelque chose pour nous mettre en position d'écouter ce que la nature a à nous dire.
Donc, empathie avec la nature qui souffre,
c'est ça.
C'est induire une empathie aussi avec les êtres humains, avec le monde, avec le cosmos, avec empathie globale.
C'est ça. Et c'est là qu'on parlait au début de notre conversation. Qui va bon train, d'une nécessité de transformer le soi. Je pense qu'il n'y aura pas de conversion écologique sans prise de conscience de la nécessité de repenser le soi. Alors là, à nouveau, Arnès est précieux, il nous parle d'un soi écologique. Comment il voit le soi, Arnès ? Imaginez un entrelac de ronds. Il parle de nœuds relationnels. Nous sommes des nœuds de relationnel. Vous voyez, imaginez, je fais tout un tas de cercles et finalement, ce que je suis, c'est l'enchevêtrement de ces cercles. Nous sommes des nœuds relationnels. Ce qui arrive à la nature autour de nous, finalement, nous impacte directement parce qu'elle nous constitue. Donc, le pape François me semble dire quelque chose qui fait particulièrement écho à cette idée de nœud relationnel. Je vais le citer. Dans l'encyclique Laudato Si, il nous dit « Celui qui a grandi dans les montagnes ou qui, enfant, s'asseyait pour boire l'eau du ruisseau, quand il retourne sur ses lieux, se sent appelé à retrouver son identité. L'être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures. Je m'exprime en exprimant le monde. J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est assez inspirant et ça me fait penser aux événements d'actualité hein, dont sont peut-être victimes certains de nos auditeurs ou en tout cas pas très loin de chez eux. Ces paysages dévastés qu'on retrouve et qui n'ont plus grand-chose à voir avec ces paysages qui ont nourri mon enfance. Et là, on éprouve cet immense sentiment. Alors, il y a un auteur anglo-saxon qui s'appelle Glenn Albrecht qui a inventé un beau nom, c'est la solstalgie. Ce n'est pas la nostalgie, c'est la nostalgie du sol, la solstalgie.
C'est ça,
je trouve ça assez beau.
Ces terres, effectivement, de l'enfance, ces bords de mer abîmés, ces bords de mer habités.
Quelles que soient les terres.
Le mitage dans les campagnes, enfin.
Voilà. On sent bien que cet environnement nous constitue, effectivement.
Et quand... ça s'appelle les racines. Hein.
Voilà. Et du coup, c'est une façon assez imagée d'illustrer ce que nous dit Harmness. Hein. Nous sommes notre environnement. Nous sommes des nœuds relationnels. Donc contribuer, faire attention à notre environnement, ça ne devrait pas être quelque chose de l'ordre du juridique, d'une obligation légale, de mesures politiques. Ça devrait être en fait au plus profond de nous-mêmes. Si nous avions fait ce travail profond sur nous-mêmes, qui nous conduit à l'empathie véritable. La fraternité pour les chrétiens.
Mais alors comment ? Parce que ce que quand même vous soulignez dans l'introduction de votre livre, Isabelle Priolet, dont je rappelle le titre, hein, « Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique », vous dites clairement, bon, l'Église par exemple, hein, quand on parle des chrétiens, a bien identifié la question. Cela dit, elle ne donne pas quand même les moyens. Parce qu'effectivement, c'est une chose identifiée. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi après ? Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est pour ça que le timing avec l'encyclique Laudato Si, en fait, j'avais commencé à réfléchir sur la conversion écologique deux ans avant. Et quand arrivait l'encyclique...
Vous avez trouvé les recettes ?
Voilà, ça a été Alléluia. Mais en même temps, je me suis dit, un peu comme vous le suggérez, qu'il y avait la nécessité d'éclairer les fondements de cette conversion écologique dont nous parle le pape François. Parce que je pense qu'en lisant l'encyclique Laudato Si, on n'a pas toutes les clés pour comprendre vraiment. Comprendre par exemple qu'est-ce qu'il y a derrière la question de la technique. Le pape François utilise beaucoup cette expression. Il nous dit la culture technicienne n'est pas neutre. La technique, c'est pas la technologie qui nous aliène. Heureusement que nous avons des outils technologiques. C'est la façon dont nous les utilisons et le regard que nous portons sur cette technologie et surtout. A-t-elle ou non une finalité humaine ?
Elle n'est qu'au service de, et non pas une sorte de Dieu en soi.
C'est ça, oui. Absolument.
Ça rejoint Bernanos, finalement.
Ça rejoint Bernanos, rejoint tous les grands auteurs, finalement, du milieu du XXe siècle. Par exemple, Jacques Ellul.
Le grand penseur protestant.
Oui. Alors, vous voyez, c'est là que c'est rigolo. Oui. C'est que Jacques Ellul, vous soulignez fort bien qu'il est protestant, mais c'est un des noms qui est porté au nu par le monde de l'écologie, sans savoir nécessairement ses convictions religieuses profondes. Mais c'est vrai qu'il a toujours essayé de dissocier de son approche sociologique. Il a toujours essayé de faire la part des choses. Mais quand même, la non-puissance dont nous parle Jacques Ellul, elle est profondément inspirée du christianisme. C'est quoi la non-puissance ? C'est avoir la puissance et se retenir, comme Dieu l'a fait, en se faisant homme, en Christ. Là, on touche du doigt l'enracinement spirituel de la philosophie d'Ellul.
On n'a pas évoqué l'islam, Isabelle Priolet. Quelles ressources pour l'écologie en islam ?
Alors, je pense que toutes les grandes traditions ont quelque chose à nous dire sur notre relation à la nature. C'est d'ailleurs l'objet de mon cours que j'exerce avec beaucoup de joie auprès des étudiants. Quand je parle de l'islam, je pense par exemple dans le Coran à une formule qui revient en permanence. Il y a des signes pour ceux qui comprennent. Il y a des signes pour ceux qui savent observer. Enfin, cette notion de signe, ayat, revient en permanence dans le Coran.
Par exemple, la crise de la pandémie du Covid pourrait être un signe pour ceux qui disent que ça pourrait venir effectivement de la destruction des forêts primaires et de...
Moi, je pensais simplement à cette transformation du regard dont vous parlez, qui fait que dans la beauté de la nature, on va voir... un signe d'un don de Dieu, d'un dépôt divin.
Ah oui, signe positif.
Voilà.
des signes positifs.
Et ça peut être un lieu de dialogue d'ailleurs avec le christianisme, hein, cette théologie symbolique, hein, de voir dans la nature la manifestation de la présence de Dieu, me paraît un point de départ incontournable.
C'est un dénominateur commun possible pour le dialogue entre les religions.
Voilà, et un antidote aussi au catastrophisme. Mmh. Hein, moi, j'ai une fille qui a eu quelques petits soucis d'éco-anxiété. C'est quelque chose qui touche, semblerait-il, 40% des jeunes. Ça me paraît un peu exagéré, ce chiffre.
Qui voient l'avenir, effectivement, de façon très sombre.
Voilà, ou qui sont même capables, parce que ben, on les a incités à le faire, de voir la nature en mode post-apocalyptique, carbonisée. Voilà. Je pense que les grandes traditions spirituelles sont un peu en antidote à ça. Quand on est convaincu que la nature est un signe de la présence de Dieu, on voit d'abord sa beauté, on voit combien les hommes ont pu trahir leur mission de co-créateur, certainement, mais on voit d'abord sa beauté.
Je vous remercie Isabelle Priollet. Donc pour ce livre, Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique pour une écologie de la résonance. Je me rends compte d'ailleurs que je ne vous ai pas demandé une précision sur le mot résonance. C'est la résonance, c'est cette empathie universelle dont, que vous venez de décrire.
Pour faire simple, on pourrait utiliser saint François d'Assise comme modèle. Saint François d'Assise, quand il écrit le Cantique des créatures, il est aveugle en fait. Hein. Donc ça veut dire que la nature, pour lui, elle est à la fois cosmique, hein, cette louange aux créatures, mais elle est gravée au plus profond de lui-même. Et ben, la résonance, c'est allier l'intime et le cosmique. Comprendre que la nature, elle est autant à l'extérieur de nous qu'au plus profond de nous-mêmes, nous en sommes l'expression, hein, la manifestation. Ça nous invite à l'humilité, à reconnaître notre statut de créature.
Et nous en sommes les gardiens. Donc, Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique pour une écologie de la résonance, c'est publié chez Labor et Fides. Merci Isabelle Priollet.
Merci de votre accueil.
Et l'on poursuit cette réflexion spirituelle sur l'écologie avec notre second invité, le sociologue des religions Christophe Monod, co-auteur avec le philosophe Frédéric Crognon du livre « Église et écologie, une révolution à reculons » publié également chez Labor et Fides, cette maison d'édition protestante fondée en 1924 à Genève. Christophe Monod, maître de conférences en sociologie des protestantismes à l'Université de Strasbourg, est également responsable de recherche à l'Université de Lausanne et il travaille sur les liens entre l'écologie et les nouvelles spiritualités. Son livre retrace les grandes étapes de la prise de conscience écologique des églises, mais aussi de leur retard. Christophe Monod, bonjour.
Bonjour.
Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'encyclique Laudato Si marque un engagement très fort de l'Église catholique, mais il y a eu des pionniers de la question écologique. Alors, à partir de quelle année se sont-ils fait entendre ?
Alors, il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église des personnes qui avaient des sensibilités écologistes. On pense notamment à saint François. Mais on va dire que la prise en compte moderne de cette crise écologique moderne, elle est apparue dans les années 60, d'abord par des premiers penseurs qui sont autant du monde écologique, mais aussi, de manière étonnante, du monde des élites théologiques protestantes du milieu anglo-saxon. Et on le voit très clairement, notamment par des théologiens qui ont fait des conférences au sein du Conseil œcuménique des Églises pour alerter la communauté œcuménique des dangers d'une pensée théologique qui est que tournée autour de l'homme.
C'est ça l'anthropocentrisme, c'est ça. C'est au sein du Conseil œcuménique des Églises, donc basé, je le rappelle, à Genève, qui rassemble essentiellement les églises protestantes et orthodoxes, catholiques, mais les catholiques ont un moindre poids dans ce Conseil œcuménique des églises.
Alors effectivement, on a en fait un premier mouvement dans le Conseil œcuménique des églises sur la question écologique, c'est la prise en compte d'une élite anglo-saxonne qui tout à coup a été rejointe par une autre élite, celle de l'orthodoxie, qui, elle, avait aussi des outils théologiques pour penser la création, notamment par l'accent qui est mis dans l'orthodoxie sur la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui habite en fait la terre. Donc ça, c'est la deuxième rencontre. Et puis la troisième, avec le catholicisme, c'est une rencontre qui est un peu plus chaotique, parce qu'il y a eu, disons, un problème à l'intérieur du catholicisme, au moment où, si vous voulez, dans les années 80, le Conseil œcuménique des Églises mettait en place un programme Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Eh bien, à l'intérieur du catholicisme, il y avait des tensions avec une théologie de la libération qui était suspectée de marxisme par un magistère qui, justement, était très anti-marxiste du fait de l'époque où on avait encore le mur de Berlin, on avait encore une Europe scindée en deux et un pape qui venait de Pologne. Donc là, on va dire que l'Église catholique n'a pas été très active à cette époque-là, bien que Jean-Paul II, au début de son pontificat, était plutôt très pro-environnemental.
Oui, et que Jean-Paul II, il faut le rappeler, a fait de Saint-François le patron de l'écologie.
Tout à fait. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'il a fait cette déclaration. Donc, à l'époque, il était à Istanbul, donc il était chez…
Chez Bartholomée, le patriarche orthodoxe.
Et, voilà, alors je ne sais pas s'il était chez Dimitrios ou Bartholomée. J'ai l'impression qu'il était chez Dimitrios à cette époque. Bartholomée est juste après.
Mais ça sera vérifié.
Il était, chez le patriarche, il était chez le patriarche orthodoxe, qui était justement très, déjà avec un agenda écologique important. Et on voit que donc les églises, en fait, les grandes églises, que ce soit le protestantisme, l'orthodoxie ou le catholicisme, se sont nourries pour entrer dans cette théologie verte. Et d'ailleurs, l'encyclique de François est à nouveau pétrie de ces pensées qui ont émané du Conseil œcuménique des églises, de l'Église orthodoxe, puisqu'elle est nommément citée dans l'encyclique, mais là aussi, la théologie de la libération qui est reprise dans sa dimension écologique pour l'encyclique.
C'est ça, oui. Vous soulignez bien, en effet, que les pays du Sud, et notamment des théologiens des pays du Sud, et là, on pense bien sûr au théologien brésilien Leonardo Boff, ont alerté l'Église sur cette question, effectivement, notamment de la, bon, on peut penser à la déforestation, enfin tout ce qui pouvait abîmer la nature, la terre.
Alors oui, Leonardo Boff est très connu, mais il y a un autre, en fait, il y a un autre acteur qui a été plus important, en fait, pour, je dirais, la prise en compte par le magistère de la question écologique. C'est un prêtre qui travaillait aux Philippines, qui s'appelle Shane McDonough, et qui a été, disons, que les évêques des Philippines ont été les tout premiers à alerter le magistère. Et puis, Shane McDonough a participé, bien entendu, au Conseil œcuménique des Églises dans toutes ses réflexions, mais il a aussi participé à la réflexion de l'encyclique.
Si je vous comprends bien, Christophe Monod, donc Laudato Si, l'encyclique du pape François, donc publiée en 2015, c'est une sorte de synthèse, en fait, de tous les travaux, hein, de toutes les avancées qui ont été réalisées avant. Maintenant, ce que vous soulignez quand même dans votre livre « Église et écologie, une révolution à reculons », c'est que, ça n'est pas suivi d'effet. Il n'y a pas, en fait, de mode d'emploi, en quelque sorte, de cette encyclique.
Alors, cette encyclique, effectivement, elle a remis en lumière, en fait, une théologie qui était restée dans le placard dès la fin des années 80. Et là, c'est un acte, je dirais, très important pour les églises chrétiennes que cette encyclique de François. Alors, c'est un discours. Et effectivement, la difficulté, c'est de passer du discours aux actes. Et spécialement dans les églises francophones ou latines, un peu moins dans les églises, je dirais, nordiques et allemandes, qui, elles, ont déjà mis en place beaucoup de projets écologiques. Mais on a beaucoup plus de mal. Et alors, je parle de l'Europe latine, mais on ne parle même pas de l'Amérique. Hein. Et là, il y a des grandes difficultés qui sont des difficultés non pas théologiques, mais je dirais plus administratives, plus sociologiques, plus de fonctionnement des églises et qui fait qu'à chaque niveau de l'église, il peut y avoir une possibilité de freinage. Ça peut être au niveau de la paroisse, ça peut être au sein du diocèse, ça peut être au sein d'une église nationale, hein, sur le plan ou linguistique, où il y a des freinages, parce que c'est des freinages plus sociaux, donc de normes sociales. Donc effectivement, il y a des grandes difficultés pour les pionniers de mettre en place maintenant des programmes durables.
Comment resituer précisément la théologie verte, hein, ça sera ma dernière question, Christophe Monod, dans justement ce grand débat sur le dérèglement climatique et puis sur les questions environnementales? Quelle est la place de la théologie verte?
Alors c'est une excellente question, parce qu'on pourrait penser que la théologie resterait du domaine de l'Église comme ça, mais en fait, dans un volume qui vient de paraître, s'appelle La théologie verte, on montre en fait que cette théologie est profondément positive. Donc elle a une sorte d'eschatologie positive, d'espérance, et elle a finalement un message très positif à apporter dans la société.
En fait, elle s'inscrit en faux par rapport à la collapsologie.
Tout à fait. Elle va reprendre les motifs chrétiens pour montrer qu'ils s'appliquent aussi à l'écologie, aussi à la nature, et elle va pouvoir apporter un message d'espérance aussi pour ce qui est de la partie des créatures et de la nature et du climat.
Je vous remercie, Christophe Monod. Je rappelle que vous signez avec Frédéric Rognon chez Labor et Fides, Église et écologie, une révolution à reculons. Merci.
Merci.
Nous refermons cette émission en nous rendant dans les vignes de Régis et d'Audrenne Anouilh, un couple de vignerons du département de la Loire. Leur domaine s'appelle La Bénisson Dieu. Il s'agit d'un écho à mots chrétiens et une de leurs cuvées 2020 s'appelle Laudato Si, le nom de l'encyclique du pape François. Régis Anouilh, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez-nous déjà de cette cuvée Laudato Si. C'est un vin rouge?
Oui, c'est un vin rouge, c'est un vin de notre appellation, l'appellation de la côte roannaise, pas très loin de la ville de Roanne, et c'est un vin rouge sur un cépage, le Gamay Saint-Romain, qui est le grand cépage de cette appellation, issu de vignes plutôt âgées, 50 et 70 ans, de deux petites parcelles de cet âge-là, et un vin que nous vinifions au chai sans intrants. Donc il n'y a que le jus de raisin dans la bouteille qui va devenir du vin. Nous souhaitons effectivement, à travers cette vinification sans intrants, donc le vin n'est ni collé, ni filtré, ni sulfité, il n'y a pas de soufre dans le vin, il n'y a aucun ajout issu de l'œnologie moderne. Nous souhaitons mettre en valeur, bien sûr, le terroir, mais aussi notre travail à la vigne, qui est, on l'espère, en tout cas je le souhaite, nous le souhaitons, le plus respectueux possible de la nature pour obtenir des sols vivants.
Tout votre domaine est en bio?
Nous sommes certifiés en bio, oui, c'est une certification, c'est une garantie malgré tout pour nos acheteurs de savoir un petit peu comment nous travaillons, même si le bio n'est qu'une première pierre dans une démarche qui pour ce qui nous concerne, essaye d'aller plus loin, effectivement, dans le respect de nos sols, de manière à ce que la vigne s'exprime au mieux.
Alors effectivement, oui, le domaine de la Bénisson Dieu, bon, ça dit beaucoup, hein, ce nom, ça dit beaucoup sur votre engagement, puisque vous avez opéré une véritable conversion de vie, j'allais dire. Vous étiez parisien, vous travailliez dans les médias, vous étiez journaliste à l'agence Église d'Asie. D'ailleurs, une bonne partie de nos auditeurs se souviennent de vous, hein, vous avez beaucoup voyagé en Asie. Conversion totale de vie avec votre épouse et votre famille pour se lancer dans le vin.
Oui, c'est un peu fou et ça peut paraître, comment dire, difficile à comprendre. Effectivement, vous avez très gentiment rappelé que j'ai été journaliste. En fait, ce qui a été un déclic de ma femme et moi, c'était lorsqu'on a vu le film Demain. Vous vous rappelez peut-être de
Bien
ce
sûr.
Film sur diverses initiatives en matière de sauvegarde de notre planète, de la création. Eh bien, un intervenant disait, si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. Eh bien, ça a été un peu le déclic. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Donc nous, alors d'un point de vue très personnel, on a discerné qu'on souhaitait pour nos 15 ou 20 ans de vie professionnelle un projet de couple, ma femme et moi, un projet tous les deux, et ça a pris la forme d'un retour à la Terre. Alors, pas plus qu'un tour, puisque moi, ça fait plusieurs générations, et ma femme aussi, que nos familles sont plutôt urbaines. Donc, aucun lien avec le monde rural. Et on a rejoint cet éco-hameau de la Bénisson Dieu, qui est situé dans ce village extraordinairement nommé la Bénisson Dieu. C'est une ancienne abbaye, l'abbaye Notre-Dame de la Bénédiction de Dieu. Et la Bénédiction de Dieu est devenue la Bénisson Dieu. L'abbaye n'existe plus depuis la Révolution. Mais l'abbatiale est toujours là et il y a un collectif de 7-8 familles qui cherchent à vivre une sobriété heureuse, une vie plus décroissante, plus harmonieuse et de retrouver un petit peu ces formes de solidarité au quotidien. Et pour nous, ça prend le cadre et celui du monde rural.
Ce sont des familles chrétiennes.
Personnellement, la vigne. Ce sont des familles chrétiennes, oui. Mais dans le monde, dans ce monde qui effectivement, on ne peut pas le cacher, n'est plus énormément chrétien. Donc il y a cette volonté, non pas de mettre en avant notre foi, mais notre engagement à sauvegarder effectivement la création. Parce que ce que je crois fondamentalement, c'est que les racines ou même le fondement de l'écologie est chrétien. J'en veux pour preuve la chose suivante. Vous avez sans doute entendu parler de la permaculture. Les trois éléments clés, les trois clés de la permaculture, c'est prendre soin de soi et des autres, prendre soin de la terre et enfin partager le surplus. Si à travers ces trois éléments, prendre soin de soi et des autres, prendre soin de la terre et partager le surplus, on n'a pas l'essence du message évangélique, alors là, je ne comprends plus rien. Je veux dire vraiment par là que la permaculture n'a rien de... On n'a pas besoin d'être chrétien pour faire de la permaculture, mais on voit à travers ces trois clés que, effectivement, fondamentalement, lorsqu'on prend soin de la terre, lorsqu'on s'en occupe de manière la plus humaine possible, eh bien, on s'inscrit nécessairement dans une démarche finalement verticale et qui nous mène vers la transcendance.
Vous allez élargir, si je puis dire, vos domaines d'activité avec de l'élevage ?
Alors l'idéal, effectivement, c'était de recréer un organisme, ce qu'on appelle un organisme agricole où nous ne ferions pas que de la vigne, mais également les animaux, que ce soit des moutons ou des vaches, viennent aussi fumer nos terres, enrichir nos terres, pour toujours aller plus loin vers des sols vivants. Ça, c'est un développement que nous souhaiterions. Il n'est pas aisé parce qu'effectivement, nous découvrons encore une fois tout et nous rendons bien compte que si nous voulons faire du bon vin, les choses se passent à la vigne. Il y a un adage vigneron qui dit que le vin se fait à la vigne. Il est très réel. Sans bonne vigne, vous ne faites pas du bon vin, mais surtout sans un sol vivant, vous ne serez pas capable de nourrir convenablement vos 7 de vignes qui eux-mêmes ne font pas des raisins sains qui ensuite fermenteront de la manière la plus naturelle possible au chai. Donc l'homme intervient bien, le vin c'est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Sans le travail des hommes, le jus de raisin devient du vinaigre. Mais en tout cas, nous ne sommes pas là pour dominer cette création, on est vraiment là pour l'accompagner, pour la magnifier. Et c'est moi très concrètement, ça, chaque jour quand je suis dans mes vignes ou au chai, il y a vraiment une dimension verticale qui s'exprime à travers ce travail.
Et que vous n'aviez pas imaginé lorsque vous étiez journaliste parisien, Régis Anouilh.
Non, c'était effectivement, on était loin de comment dire, il faut goûter cela au quotidien pour effectivement s'en rendre compte. Il y a un aspect très charnel dans ce métier, une incarnation finalement, une forme de révélation pour nous.
Je vous remercie Régis Anouilh, et donc on peut vous retrouver sur votre site domaine-labénissondieu.fr. Merci Régis Anouilh.
Merci Geneviève, merci.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Véronique Durand, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Ce lundi sur